cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Standing on the rooftop, sun is coming up, and all the ones I care for are doing fine. Making sure things get done. It seems I never stood up here. To watch the rising of the sun.
Bonjour Madeleine Perrou.
Bonjour.
Vous publiez un nouvel album qui s'appelle Standing on the Rooftop. Alors, comme j'allais dire toujours avec vous, et c'est une tradition peut-être que les musiciens contemporains perdent un peu, il y a quelques reprises. Alors, il y en a moins que d'habitude, parce qu'il y a un morceau de votre plume, mais il y a trois reprises. Et c'est vrai que tout au long de votre parcours, il y a eu toujours beaucoup de chansons revisitées, de répertoires très, 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 très différents. Alors, avant peut-être de parler de ce nouvel album, pourquoi justement vous expliquez que désormais, finalement, la majorité des gens ne font pas trop de reprises, n'utilisent pas trop le patrimoine avec lequel ils ont grandi musicalement, avec lequel ils vivent, que ce soit, on ne va pas citer toutes les chansons que vous avez revisitées, mais de Elliott Smith à Bob Dylan ou Robert Johnson, en passant par des dizaines et des dizaines d'autres. Comment vous expliquez ça? Et pour vous, qu'est-ce que ça représente finalement, la relecture d'un texte écrit par quelqu'un d'autre?
Je ne sais pas si je peux vraiment comprendre pourquoi c'est de plus ou moins le cas pour la plupart des artistes maintenant pour faire des reprises. Peut-être que nous vivons quand même dans une société qui demande, qui dirait que c'est plus important de pouvoir recréer, de pouvoir être le nouveau truc, de pouvoir créer quelque chose qui n'a pas été fait. Alors que je pense dans la question de longévité, dans la question de l'art, c'est quand même c'est connu que ça ne se fait pas très 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 souvent, peut-être jamais que on arriverait à faire quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, des reprises pour étudier la musique, pour étudier la culture, l'histoire. De la société où on vit maintenant, pour se repérer soi-même, pour s'éduquer aussi. Je pense que c'est la façon dont on doit commencer au moins pour étudier les choses, pour grandir, pour mûrir. Et,
c'est aussi une façon de trouver sa propre voie, c'est-à-dire de mettre finalement un vêtement qui a été créé par quelqu'un d'autre et d'essayer de... Ça définit le rôle de qu'est-ce que c'est qu'un interprète aussi, mais...
Oui, mais enfin, l'interprétation, c'est peut-être moins respecté que ça pourrait l'être, mais c'est un art à reconnaître, je pense. C'est un art très spécifique, très personnel, très, très individuel.
Est-ce que pour vous, ça veut dire qu'il y a certaines chansons que vous avez voulu reprendre, chanter, que vous n'avez pas réussi pour X ou Y raison?
Absolument,
ça vous est déjà arrivé?
Absolument, absolument. Mmh. C'est plutôt une question de trouver le diamant dans une énorme rocher. J'ai pas les mots, mais c'est vrai que... C'est une question de recherche qui va très loin, je pense, jusqu'à l'intérieur, jusqu'au fond de l'identité du joueur. C'est comme si je disais que j'allais jouer le rôle d'un homme âgé, bon, c'est peut-être c'est farfelu, quoi. Mais en même
quelque
temps,
chose que vous n'êtes pas, donc justement,
c'est oui, oui, exactement. Mmh. Il faut rechercher dans tous les détails qui on est pour trouver quelque chose qui nous va. Et des fois, ça dépend de la manière dont on le choisit. Donc, quand je chantais Leonard Cohen, j'étais très au courant que peut-être le point de vue doit changer, mais c'était le niveau de l'écrivain qui donnait quelque chose de complètement différent, mais toujours vrai pour une fille de mon âge, pour chanter « Dance Me to the End of Love », ou bien plus tard, j'ai chanté une chanson assez sexuelle, « Blue Alert », qui parlait des sentiments de l'addiction du sexe, en fait. C'était plutôt à propos de ça, moi, je pense. Et on faisait ça, et pour moi, c'était une question de trouver le rôle du personnage. Mais jamais... Je peux pas me distinguer de qui je suis, c'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître son être. Et puis, s'ouvrir maintenant, s'élargir un petit peu vers l'universel, j'aimerais dire.
Est-ce que c'est ça qui vous fait de plus en plus écrire vous-même, justement ce que vous avez déjà fait de plus en plus, mais oui. Donc sur cet album, alors en plus peut-être différemment, parce qu'il y a pas mal d'invités sur cet album avec des chansons que vous avez écrites avec des gens assez différents d'ailleurs, que ça soit, je sais pas, Bill Wyman, on vous en parlerait peut-être, ou il y a Marc Ribot qui reprend un poème d'Oden, c'est assez marrant, qui avait été chanté d'ailleurs par plein de chanteurs lyriques. Même, donc justement, et au tout milieu de tout ça, donc les Beatles aussi qui traînent par là, Dylan aussi, Robert Johnson aussi, donc des sortes de statues de commandeur impressionnants. Donc comment vous avez abordé justement sur cet album spécifiquement l'écriture? Vous aviez des idées précises? Il y a aussi l'aspect du son dont on parlera, de la musique qui est assez évoluée, qui change beaucoup, mais... Sur l'écriture même.
L'écriture m'était très important, et je n'avais pas l'intention de faire des reprises, en fait, quand j'ai commencé ce projet, parce que ce qui m'intéressait le plus, c'est de pouvoir sortir ces histoires. Par contre, je ne dirais jamais que je ne suis pas une chanteuse d'abord, une interprète d'abord, avant d'être quoi qu'il en soit d'autre, en fait. Finalement, c'était l'idée du producteur Craig Street de rajouter des morceaux à la liste avant d'aller au studio. Et donc, trois chansons ont été choisies que j'adorais, qui me semblaient proches à l'âme. Ceci dit, j'étais très prête à reconnaître que ça ne me va pas, etc., etc. Mais on a trouvé que ça marche. Ce sont des histoires que je pense comprendre presque facilement. Enfin, et c'est de la musique que je connais depuis la plupart de ma vie, ma petite vie maintenant. Et donc, j'ai écouté The White Album beaucoup. J'ai écouté Bob Dylan's Biograph beaucoup, beaucoup. Et Love in Vain, Robert Johnson, j'ai écouté depuis, même avant ça, parce que, en fait, c'était mon père qui voulait nous instruire sur des musiques du Sud, du Delta, de Nouvelle-Orléans et tout ça, parce que c'est de là qu'il venait.
Et sur vos compositions même, sur cet album, on sent une sorte d'évolution dans votre style, dans votre écriture, avec vers l'épur, quelque chose de, enfin, less is more, comme disent souvent les anglo-saxons. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté-là. Est-ce que vous avez finalement travaillé, vous avez écrit de la même manière que les précédentes, ou il y avait quelque chose d'un peu différent comme ça?
Ah, je pense que oui, j'ai développé dans ma façon de travailler. J'ai passé beaucoup de temps l'année dernière, la moitié de l'année, j'ai arrêté de faire la tournée et de jouer dans le public, devant le public. Et j'ai partagé évidemment le travail de composer avec plusieurs personnes, mais pour quand même continuer à rechercher. Vous avez très bien dit, là c'est moi, c'est-à-dire qu'il fallait que que j'écrive plutôt l'essentiel, au moins dans les paroles. Et je pense que il y avait beaucoup de, comment ça se dit, polissement. Il y avait beaucoup de.
Il fallait polir, on est. Oui.
Il fallait quand même, yeah, a lot of polishing, a lot of.
Et alors, donc, en termes justement donc des personnes qui sont sur cet album, alors il y a des gens que vous connaissez depuis un certain temps, Marc Ribot qui était d'ailleurs sur votre premier album, un guitariste assez génial et même fait songwriter assez étonnant. Mm-hmm. Et il y a Bill Wyman aussi, donc des gens assez vraiment des profils très 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 différents.
C'est vrai.
Comment si on prend ces deux exemples par exemple, retravailler avec Marc Ribot, comment ça. C'était une envie précise. Il y avait pourquoi ce choix d'ailleurs aussi de ce poème. Comment ça s'est fait?
Ce sont des choses qui se sont rassemblées assez organiquement du début à la fin. C'est un processus de découverte. Je recherche quand même partager l'expérience de l'instant, le moment, enfin l'âme qui existe dans. In the room, dans la salle où nous sommes, dans la pièce. Et donc Bill Wyman, c'était lui qui m'avait approché en fait, en disant qu'il était intéressé dans mes enregistrements et que il avait une chanson qu'il voulait me montrer. Quand je l'ai entendue, je me suis dit ça donne comme des morceaux que j'écris. J'aimerais pouvoir le visiter en Angleterre. Donc j'ai passé, il a bien voulu, et c'était formidable. J'ai passé une semaine à partager les après-midi et le repas du soir avec lui et sa famille. Et on a regardé plein de morceaux qui étaient à moitié travaillés, etc. Et je suis retournée à la maison avec toutes ces nouvelles idées. Avec Marc Ribot, j'avais envie d'écrire avec lui. Je voulais que l'ouverture d'esprit, l'idée d'écrire, de composer ou même juste d'être très ouvert dans les arrangements et dans la musique, dans l'interprétation de tout ça, que ce soit une atmosphère totalement ouverte. Et donc avec Craig, c'était exactement ça, Craig Street, le producteur. Et plus tard, avec Marc, j'ai demandé s'il voulait écrire ensemble. Et donc, il m'a montré ce morceau de Auden qu'il avait déjà écrit beaucoup, la musique. Mais ce n'était pas le genre de truc que Craig voyait faire partie de ce liste.
Album.
Oui, oui. Et je l'ai convaincu juste en faisant... un petit peu de travail. Bon, d'abord, ce que j'ai dit, c'est que on va essayer. Bon, ça, c'est pas un engagement d'essayer quelque chose, n'est-ce pas? Par contre, nous l'avons fait enfin, après avoir passé une heure à regarder des petits détails dans l'arrangement pour que ce soit vraiment à tempo au lieu d'être trop mélodramatique.
Et c'est un texte heavy, donc c'est...
Oui, donc il fallait trouver un moyen pour l'attaquer et une direction. Et à la fin, c'était one take, c'était la première prise avec tout le monde, avec moi aussi, la voix aussi. Je ne pouvais pas refaire plus tard, alors que je ne le savais pas à l'instant. Et c'était la fin. Et puis Marc, qui est... très perfectionniste. Alors, c'est la seule personne que j'ai jamais connue qui est aussi spontanée et aussi perfectionniste en même temps, et qui est un peu vraiment contradiction vivante, n'est-ce pas? Mais il me dit, oh, bon, c'était bien Madeleine, mais après l'avoir écouté, j'aimerais faire juste une autre. Et je rigolais juste comme vous rigolez maintenant. En fait, je le connais déjà et pendant 3 jours, il avait déjà été en train de faire des je vais refaire mon solo. Toujours la première prise, c'était la meilleure avec lui. Alors je lui ai dit, Marc, je suis désolée, on n'a pas le temps. Et je me trouvais maligne, alors que plus tard... c'était moi qui disais pourquoi je ne peux pas refaire les voix, la voix.
Justement, petite parenthèse sur la première prise. Est-ce qu'en général, avec vous, la première prise est souvent la meilleure ou pas? En général, ou vous êtes plutôt en studio, ça dépend des situations. Il y a des musiciens qui sont, oui, la première, c'est souvent...
Pour moi, c'est différent. Je pense que pour moi, bon, ça dépend en fait du producteur et de la façon dont on travaille ensemble. Donc, ça a changé pour moi d'album en album, dépendant d'avec qui je travaille. Avec Larry, je ne faisais que des overdubs. Donc, je chantais totalement plus tard. Enfin, presque. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire que je chante beaucoup. Des fois, c'est la première prise, mais ce n'est pas en live avec le groupe. Donc ça a dépendu des morceaux, oui, en fait. He said he'd always stay, but I was cruel, I treated him like a fool, and I threw it all away. I once had mountains in the palm of my hand, rivers that ran through every day. But I must have been mad, never knew what I had till I threw it all away. Love is all it is, it makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you won't be able. Gives you all his love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you'll surely be a hurt if you throw it all away. If you throw it all away. No. It makes the world go round. Love and only love can't be denied. And no matter what you think about it, you won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone to give you all of his love, take it to your heart, don't let it stray. One thing is certain, you'll surely be hurt if you throw it all away. If you threw it all away.
Les autres participants, il y a aussi Michel Ndegue au cello qui joue sur l'album. Finalement, il y a beaucoup de tous ces sidemen, comme on dit, sont des fortes personnalités en plus.
Exactement.
Des gens avec un peu comme vous sont des gens. C'est pas juste des gens qui sont là pour faire leur instrument. C'est des gens avec une vraie un vrai discours musical, avec des vraies idées et qui sont pas juste là pour la décoration quoi.
C'est vrai, exact. C'est bien dit. J'aurais voulu essayer de le dire. C'est vrai, non, et c'est justement, c'est non seulement, je ne me suis pas dit il faut que j'ai des personnalités, mais c'est vrai que ce sont des gens que j'avais envie d'inviter sur cet album, sur ce projet, j'avais envie d'écouter leurs idées. C'était plutôt à cause du répertoire à cause du fait que ces chansons que j'écrivais m'inspiraient à m'ouvrir un petit peu. J'avais vraiment, vraiment un désir énorme d'explorer l'horizon, c'est ça. Et donc je me suis dit, bah Michel, je l'ai dans la tête, je l'ai dans l'âme et dans le cœur. Marc, je l'ai dans l'âme et dans le cœur autant que dans mon éducation musicale. Pareil avec Charlie Drayton et le son et le style et l'attitude. Bien que je ne le connaisse, je le connaissais moins, il fait partie du même monde, même si on n'avait pas travaillé ensemble. Et d'ailleurs, c'était intéressant que Charlie et Michelle n'avaient pas travaillé ensemble. Michelle et Marc n'avaient pas vraiment travaillé ensemble.
Moi, je les ai vus en concert. Ils ont donné un concert à Paris il y a 6 mois.
Ah oui.
C'était un concert de Marc Ribot. Elle était invitée. Elle était sur scène. Il y avait un peu d'improvisation. Mais c'était pas un album. C'était juste un concert comme ça.
Ah oui,
c'est intéressant.
Non. C'est intéressant. C'est très bien.
Et Alain Toussaint aussi.
Évidemment. C'était encore une personnage. Oui, une légende. Et pour moi, c'était leur esprit qui informait la chose. Je pense que ça aurait été vraiment une bêtise d'inviter des gens comme ça et de ne pas les entendre, ne pas retrouver la présence dans l'enregistrement. Mmh. Et ça m'est arrivé dans le passé, malheureusement, de travailler avec des gens, mais de ne pas pouvoir reconnaître la personnalité. Enfin,
oui. Est-ce que ça veut dire aussi dans l'écriture de ces nouvelles chansons, vous aviez déjà à l'esprit la musique qui allait avec, c'est-à-dire vous aviez vraiment des idées d'arrangement, d'instrumentation, etc. Parce que c'est un album assez dense à ce niveau-là. C'est-à-dire, il y a évidemment votre voix est là, mais on sent qu'il y a vraiment des moments où les arrangements, la production, essayent vraiment comme une mise en scène un peu de tout ça qui change un peu par rapport à vos disques précédents.
Ben, j'espère, parce que c'était bien, mon désir quand même. Je veux voir qu'est-ce que ça donne de mélanger non seulement tous les styles que j'ai déjà travaillé, que j'ai essayé d'enregistrer avant et de les fuser, mais aussi de pouvoir utiliser des sons que j'ai entendus et j'ai pas encore entendu avec une voix dessus, par exemple. Pour moi, c'était une idée de voir la musique classique contemporaine avec une voix et une structure de chansons, d'histoires linéaires, de pouvoir raconter une histoire dans un moment linéaire, évidemment, comme dans la musique, mais avec le point de vue plan large. J'arrête pas de dire plan large aujourd'hui. Plan large, justement, enfin, Standing on the Rooftop, c'était la chanson, le titre de l'album. Mais aussi, c'était la première chanson que j'ai écrite pour ce projet. C'était d'abord un poème qui venait d'une expérience concrète, mais qui représentait une sorte d'expérience que je vis très souvent. C'est d'être debout, par exemple, quand tout le monde dort, d'être debout parce que le soleil va se lever bientôt. D'être en train de réfléchir, mais d'être contente parfois. Il y a une espèce de calme méditative, mais une espèce de calme tellement puissante qui peut venir si on veut bien essayer de
mettre en retrait.
Se retrouver. Pour pouvoir regarder une situation d'un autre perspective, évidemment, point de vue. Donc, c'est une histoire. En même temps, Standing on the Rooftop aussi m'a inspiré du côté sonore. Je voyais les couleurs du ciel arriver dans l'horizon. Dans ma tête, c'était des couleurs musicales qui pouvaient commencer. Et c'était le fait de pouvoir vivre en temps vrai, soi-disant, si ça existe, évidemment, c'est ça la question pour moi. Mais de voir, de vivre en temps vrai les changements par seconde en seconde, et en même temps de vivre toute une autre histoire, parce que le cerveau marche comme ça, on se rappelle des moments de la vie, on arrive à voir toute sa vie passer devant les yeux, évidemment, et puis il y a cette étincelle quand, quand on fait une décision, où on fait une réalisation. Donc c'était je recherche l'épiphanie dans ces histoires.
Est-ce que ça veut dire que vous avez l'impression d'avoir mis plus de vous dans cet album que dans les précédents? Je ne dis pas que les autres, ce n'était pas vous. Je pense que c'est toujours. Mais est-ce que là, plus, peut-être plus que d'habitude? Ou non, finalement, c'est à chaque fois une sorte d'instantané, de snapshot de votre vie à tel moment?
Oui, je pense que c'est un snapshot. Mais en même temps, si je réussis quelque chose, il faudrait que ça ait un peu de... il faudrait que ça ait quelque chose de vrai, de vraiment vrai. pour cet album, je suis plus mûrie maintenant. J'ai l'impression d'avoir une conscience, d'être plus mûrie d'ailleurs.
C'est quelque chose, au-delà de l'aspect personnel, parce que musicalement, au niveau de l'écriture, vous savez, il y a des choses qui vous, c'est juste vous, votre personnalité qui a changé, ou est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous ont fait passer dans un autre univers, dans un autre monde? Est-ce que ce sont des albums, des rencontres musicales, des choses, une façon peut-être de regarder votre parcours jusqu'ici, ou c'est juste vous tout simplement qui changeait comme n'importe quel être humain et...
je ne sais pas, est-ce que c'est possible?
Vous regardez justement de temps en temps, parce que vous vous appuyez sur pause et vous dites bon, qu'est-ce que j'ai fait, voilà mes albums, ceci, cela, ou finalement vous êtes dans un flow continu et vous ne voulez pas trop réfléchir à ça, vous êtes pas, c'est pas à vous de porter tel jugement ou tel... Vous aimez bien regarder un peu?
J'aime bien regarder un peu, je préfère la vie examiner, en fait. Malheureusement, je suis peut-être un petit peu trop calculée des fois. Enfin, c'est pas calculé, mais c'est pas comme si j'arrive à faire des décisions avec calculation. C'est plutôt que j'arrive bien à déconstruire tout ce qui se passe une fois que c'est fini. Mais je trouve que c'est pour ça que j'aime ces chansons sur cet album. C'est un exemple d'une vie examinée, peut-être plus en arrière qu'en avant, mais c'est ça, c'est le passé que je voudrais dire existe dans le présent aussi.
Est-ce que vous cette façon justement, vous dites j'analyse trop parfois, etc. Est-ce que vous placez dans l'univers musical d'aujourd'hui, de 2011, parce que bon, vous êtes toujours évidemment ancré dans la musique, en plus vous êtes, comme on l'a dit au début, une des rares à utiliser le patrimoine de la musique, des reprises, etc. Est-ce que vous vous sentez seul sur votre île aujourd'hui en 2011, ou vous avez l'impression d'être dans un... Comment vous voyez?
Moi, je me vois ici en 2011, je me vois pas du tout ailleurs. Mais des fois, je suis quand même, je pense, génération X, et je pense que j'ai un petit peu le complexe de cet stéréotype. J'aimerais dire que nous ne savons pas qui nous sommes aujourd'hui, que c'est un monde assez flou et bizarre, et que le numérique, etc., ça nous a changé un peu les idées, mais nous ne savons pas encore quoi faire avec. Et que je pense que je me retrouve en train de rechercher tout ce qui est humaniste pour comprendre, pour me comprendre et pour donner sens à tout ça.
Par rapport à ça, justement, quand les gens aiment bien mettre des stickers sur le bac, quand il y a eu encore, il y a toujours encore, la Billie Holiday contemporaine, etc., c'est quelque chose qui vous a amusé, énervé, agacé? Comment vous avez... Il vaut mieux être comparé, évidemment, à Billie Holiday, qui est... Et effectivement, on peut voir éventuellement les passerelles, mais est-ce que, au bout du compte, c'était pas un peu une sorte juste de sticker comme ça qui empêchait les gens de voir un nombre d'aspects autres de votre musique et de votre art?
Oui, pendant un moment, j'étais déçue parce que pour plusieurs raisons, c'est je trouvais ça erroné. Et je trouvais que si on... Mais ça aurait pu être une autre chanteuse pour que je sois un peu encadrée par cette idée de torch singer, de glam et balade...
mélancolique.
Yeah, mélancolique, voilà. Exactement. D'ailleurs, femme dépendante aussi, un peu weak, you know, un peu trop... dépendante, quoi, you know. Et alors que pour moi, Billie Holiday représentait quelque chose de très fort, Bessie Smith, de très individuel, de très indépendante, évidemment. Et donc, c'était difficile pour séparer tous ces détails et dire oui, je suis ça, non, je suis pas ça, je ne pourrais jamais dire à une audience de je peux pas forcer une étiquette, je peux simplement me présenter et donc avec ma présence j'arrive à faire des partages avec une audience que je trouve toujours toujours sincère, toujours intime en fait. Et au point que ce soit une histoire humaine, que ce soit une histoire humaniste aussi. Et je trouve que c'est tout. C'est tout ce que je voulais, en fait. En tout cas.
Vous avez envie de quoi, là? Bon, l'album va sortir. J'imagine qu'il y aura des concerts. Promener l'album et les nouvelles chansons un peu sur scène, public. Vous êtes, comment ça se passe? Vous avez déjà ces projets après projets? Vous avez des phases de création, vous avez envie de plein de choses. Comment vous êtes en ce moment-là? Vous avez hâte, j'imagine, que l'album sorte, mais est-ce que vous avez déjà des idées par rapport à ces, tout ce que vous avez fait avec...
Le prochain.
Déjà, vous avez déjà en tête le prochain?
Je préfère, oui.
D'accord.
Un petit peu. Ouais. Je suis inspirée. Je pense que ce qu'on a fait ici, maintenant, pour moi, c'est d'ouvrir une porte sur les possibilités sonores. Et évidemment, j'ai reconnu un petit peu mes faiblesses et mes forces dans l'écriture des paroles. Maintenant, j'aimerais plus explorer les possibilités d'arrangement dans la production de l'idée entière. Et je continue à faire le chant, c'est ça. Donc, je vais essayer de voir si ça peut continuer. C'est ça qui compte.
On vous souhaite bonne chance pour ça. Merci Madeleine Perrou.
C'est moi qui vous remercie. I followed him to the station with his suitcase in my hand. With a suitcase in my hand, it's so hard to tell, so hard to tell, and all your love's in vain. The train pulled into the station. The train pulled into the station, and I looked him in the eye. I'm so lonesome, I felt so lonesome, I could not help but cry. Oh,
of a train left the station. It had two lights on behind. The train left the station with two lights on behind. And the blue light was my blue, red light.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.